difficile pour moi les 2 derniers mois, principalement, j'avais vraiment hâte au 1er octobre. Pas parce que je venais ici, parce que j'avais même oublié, parce que je prêche jamais 2 fois à l'extérieur de suite, parce que je veux pas manquer mon assemblée. Puis j'avais fait une exception cette année, parce que la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières, ouest. Alors, c'est ça qui m'a un peu induit en erreur. Je savais que je m'en venais bientôt ici. Puis là, quand Mario m'a écrit cette semaine pour me dire ça, je dis, ah, ben, c'est vrai, c'est demain. Mais je suis content d'être ici. Je suis content que tu m'aies écrit, Mario. Mais ça a été difficile pour moi, pour plusieurs raisons. En août, j'ai allé porter Micah en Floride, qui commence son année à l'école biblique. Alors, on a pris l'avion ensemble. Et je l'ai abandonné là-bas, seul, pas de valise, parce que l'aéroport ont perdu ses 2 grosses valises. Elle les a reçues 3 jours plus tard. Je l'ai abandonné seul, pas de valise, pas d'amis. J'ai trouvé ça dur quand je m'en venais à tourner à l'aéroport. J'avais le cœur gros. Ensuite, le 10 septembre, c'est Heidi qui quittait pour la Corée du Sud. Alors, on est allé la porter à Montréal, a pris l'avion. Stress parce que là, elle avait 20 heures de vol en tout, 24 heures, je sais pas trop. C'est tout beau? Une souris, non? C'est parce que tu me vois pas. Tu veux-tu mettre un petit échange? Je vais être plus haut de même. Mais tu fais ça comme ça. Là. Comme ça? OK. Excusez, c'est parce que depuis la COVID, j'ai utilisé ça pour justement prêcher devant les caméras. C'était plus facile que des petits, surtout avec les yeux, la vue baisse. Mon texte est gros de même, fait que ça va bien. Hein? Pour? Ah ouais, peut-être. On pourra en rediscuter. Mais c'est ça, Heidi, Corée du Sud, plusieurs heures de vol. J'étais stressé parce qu'il fallait qu'elle prenne des genres de taxis pour se rendre le soir tard à l'hôtel, retourner à un autre aéroport, ensuite. Puis là, j'avais toutes sortes de scénarios dans ma tête, de films que j'aurais peut-être pas dû écouter. Alors, j'ai été stressé beaucoup. Marie-Pierre a commencé aussi les études, a fait un retour aux études à l'université. Elle, c'est pour enseignement à l'école, au secondaire. Alors, gros changement. On est tout à l'étude, les 7 en famille. Et puis, les 2 dernières semaines, c'est pour moi l'école. J'ai recommencé l'école en juillet. En fait, c'est en août, mais en juillet pour prendre l'avance. Je suis content d'avoir pris de l'avance. Et c'était la mi-session. Puis, l'heure de la bonne nouvelle, tout arrivait en même temps. Alors, quand les gens me demandaient comment ça allait, je dis, j'ai hâte au 1er octobre. Est-ce que ça va être passé? Puis, c'est aujourd'hui, je suis content. Alors, je souffle un peu, mais c'était pas toujours évident. Mais la fidélité du Seigneur est là. Je peux témoigner comment Dieu, malgré nous, on n'est pas toujours. Ça accroche, comme on peut dire. Dieu est fidèle. Ça me fait du bien de penser que Dieu est fidèle et Dieu nous aime vraiment d'un amour profond. Et ce matin, bien, le thème qu'on va voir, c'est la souffrance, les épreuves, puis c'est les deux thèmes pour les 2 prochains messages qu'on va voir. En fait, le même thème. On va regarder dans le chapitre de Pierre, Pierre 4. Il commence le chapitre en disant, puis on va le lire ensemble dans quelques secondes, mais il commence en disant aux chrétiens de s'armer d'une pensée bien précise. Il dit, puisque Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. Autrement dit, vous allez souffrir. C'est comme peut-être pas encourageant. Tu sais, quand on pense à ça, là, vous voulez vous partir d'une religion, là, bien, probablement que vous n'auriez pas le même pitch de vente que j'ai. C'est comme, vous voulez me suivre, ben prenez votre croix, soyez prêts à souffrir, soyez prêts à même mourir. Il le dit dans Luc 9, si quelqu'un veut me suivre, il faut que soit prêt à aller jusqu'au bout. Le bout, c'est la mort. Parce que la croix, c'est ce que ça représentait. Donc, on doit confesser Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, même au prix de notre vie. Et dans le verset 12, qu'on ne va pas lire ce matin, mais il dit, ne soyez pas surpris de ça. Vous allez souffrir. Selon le contexte, on parle de la souffrance qui est liée aux persécutions. Hier, mais ce n'est pas notre contexte. Sans perdre de vue ce contexte immédiat du chapitre 4, j'aimerais ça qu'on regarde ce thème plus large pour nous aussi aujourd'hui, la souffrance. On n'est pas persécuté, mais on vit toutes sortes de choses difficiles, les inquiétudes, des souffrances, des maladies. On a une sœur qui a appris qu'elle avait un cancer l'année passée qui était comme très grave. Quand on apprend ça, c'est comme, ouf, les enfants, quand ils apprennent ça, c'est extrêmement difficile. On vit toutes sortes de choses, même si ce n'est pas de la persécution. Et Paul rappelle aux chrétiens certaines choses, les aider à persévérer dans cette souffrance-là. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler qui va nous aider à tenir ferme quand ça va moins bien? Et on va lire les versets du chapitre 4 de 1 Pierre. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair n'a fini avec le péché. Selon les convoitises des hommes, la volonté de Dieu, tant qu'il lui est. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, boire, l'âtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Hein, parce que les chrétiens ne voulaient plus vivre comme ça. Et vu qu'ils ne voulaient plus vivre de même, ils se faisaient calomnier par les autres. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça a été aussi annoncé aux hommes. Jugé comme selon les hommes. Comme les hommes, j'ai dit selon parce que je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais le mot « comme » ici, après avoir été jugé « comme », je pense que la meilleure façon de traduire le mot grec, c'est vraiment « selon ». Darby aussi traduit comme ça. Après avoir été jugé selon les hommes de la chair, il vit selon Dieu. C'est le même mot « selon, selon », puis je pense avec le contexte, il compare « selon les hommes » puis « selon ». Je pense que le « selon » va mieux ici. Vivre selon Dieu quant à l'Esprit. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez les uns pour les autres une ardente charité, un amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est un long message ce matin de 6 points. Je vous décourage tout de suite en commençant, mais 6 points, c'est 6 choses qui est important de se rappeler quand on vit des moments difficiles. Et la première, c'est que le Seigneur nous a précédés dans la souffrance. On le voit au verset 1. « Ainsi donc, fait référence au chapitre 3, Christ crucifié. Ainsi donc, armez-vous d'une telle pensée, vous allez souffrir, donc, puisque lui aussi a souffert. » Le Seigneur ne nous dit pas seulement quoi faire, ou ne nous dit pas seulement qu'est-ce qu'on va vivre pour lui, mais il nous le montre comment le faire. Hébreux, vous rappelez, vous connaissez bien Hébreux 2, 18, a été tenté, on pourrait dire éprouvé lui-même, souffert, il peut souffrir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tentés. Alors, le Seigneur l'a vécu, il ne nous demande pas de faire quelque chose que, premièrement, lui n'a pas fait. Moi, ça m'encourage. Il sait par où on passe. Et le Seigneur a enduré beaucoup de souffrances qu'on va pâtir avec nous. Puis j'aime Carson, Don Carson, qui dit « Le Dieu sur lequel nous nous reposons connaît ce qu'est la souffrance, pas seulement dans le fait qu'il connaît tout, mais par expérience. » Depuis que le Seigneur est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, l'homme est sur le chemin de la mort. Mais Dieu, je trouve ça, Dieu il a tout de suite eu un plan, il a prévu un chemin pour nous sauver. Mais il a prévu un chemin de souffrance, de perte, d'abaissement, d'abandon. Ah, c'est ça le chemin. Ce n'était pas pour nous, c'était pour envoyer son fils qui allait passer dans ce chemin-là, pour que nous, par la foi, on puisse être délivrés de notre chemin. Ah. Alors, il a prévu un chemin pour nous, un chemin de souffrance, d'angoisse, d'abaissement, mais pour son fils. Son propre fils, pour que nous, on puisse avoir la vie. Donc, la Bible ne nous dépeint pas seulement un Dieu qui sait tout, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui est souverain. Elle nous dépeint un Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, à prendre un corps comme le nôtre, volontairement, dans notre monde, qui devient vulnérable. Ça m'a toujours fasciné, ça. Il devient un bébé, vulnérable, besoin de ses parents pour le protéger. Il a appris à marcher, à manger, à être propre. Tout ce qu'un bébé fait. Et éventuellement, il endure la souffrance qu'aucun humain n'a jamais connue, parce que ce n'est pas les souffrances physiques qui font que c'est intense, c'est vraiment l'idée d'être séparé de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation. Alors, s'il a pris sur lui le salaire de nos péchés, il a vécu cette séparation à quelque part. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la pire des souffrances qu'un jour, plein vont expérimenter, l'enfer. Donc, Dieu n'a pas seulement permis le péché et la souffrance dans notre monde, mais il s'est incarné pour venir lui-même le porter, le subir à notre place, souffrir la croix. Le Dieu incarné est un Dieu qui souffre. Et ça, quand on souffre, bien, rappelons-nous de ça. Puis on n'a pas à dire, bon, mais c'est normal, lui, c'était Dieu. Il était Dieu. Il était capable d'en prendre. Non, il avait toutes les mêmes nerfs que nous pour souffrir puis sentir toute la douleur, la souffrance, l'humiliation qu'il y a eu, le rejet puis la peine de tout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, de savoir que mon Sauveur a fait ça 10 fois pire que ce que je vais jamais vivre, ça m'encourage à dire, regarde, Seigneur, je suis capable d'en prendre un peu puis de marcher puis de t'imiter puis de souffrir moi aussi pour ta gloire. Il y a un homme dans un cours à l'école qui il partageait justement les souffrances de Christ, du Dieu incarné. Pendant le temps de questions, il y a un musulman qui s'est levé en. Il n'était pas d'accord, puis il a dit voyons donc, c'est donc bien absurde que tu affirmes que le Créateur de l'univers il va être soumis aux forces de sa propre création. Mais non, ça n'a pas de logique, ça ne marche pas ton affaire. Qui devrait manger, dormir, aller aux toilettes. Voyons donc, le Dieu créateur va aller aux toilettes. Sans parler de mourir sur la croix, qui était la mort la plus humiliante, souffrante. Et là, c'est illogique que Dieu, la cause de toutes les causes, puisse avoir des douleurs infligées à lui par des êtres qui lui sont inférieurs. Donc, il capotait. Il a regardé et a dit, merci. Tu viens de bien expliquer les vies qui sont uniques au christianisme. C'est ça, le christianisme. C'est notre Dieu qui s'est fait homme pour venir souffrir à notre place. Et Pierre dit aux chrétiens, bien, armez-vous de la même pensée. Vous allez aussi souffrir. Et ce n'est pas très intéressant, cette pensée-là. En 2020, j'étais tombé sur un... Tu sais, à Facebook, on s'envoie toutes sortes de beaux petits mots d'encouragement. C'est le fun, c'est encore. Puis 2020, c'est comme, yeah, la belle année s'en vient, mais je peux vous lire ça. Ça dit, l'embarquement pour le vol 2020 est annoncé. N'emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2019. Laissez les mauvais moments aux objets perdus. La durée de votre vol sera d'exactement 12 mois. Vos prochaines escales sont santé, amour, joie, harmonie, prospérité et paix. Commandement de bord vous propose le menu suivant, servi durant le vol. Cocktail de l'amitié, suprême de bonne santé, gratiné de prospérité, plateau d'excellentes nouvelles, salade de réussite, bûche d'émerveillement, le tout accompagné de bulles d'éclats de rire. Bon et agréable voyage à bord du vol 2020 à destination du bonheur. Mais on veut tout ça, je veux dire, moi je ne reproche pas que la personne a mis ça, mais il n'y a aucune place pour la souffrance, pour l'épreuve, pour les difficultés. On n'en veut pas. Pourtant, Dieu se sert de ça tellement. C'est un des outils que Dieu utilise dans notre vie qui est magnifique. Pas quand on est dedans, mais c'est vraiment un outil que Dieu prend. Pensez à Job, on pourrait nommer toutes sortes d'exemples. On n'a pas de place pour la souffrance, pourtant c'est ça que Dieu veut utiliser bien souvent pour nous travailler, nous amener à ressembler à Christ. Donc, le Seigneur nous a précédés. Rappelons-nous de ça. Deuxième chose à se rappeler, notre engagement de le suivre. Je ne sais pas vous étiez où, je ne sais pas c'était en quelle année, mais un jour, vous avez dit, Seigneur, moi je veux te suivre. Vous êtes engagé. Vous vous êtes fait baptiser devant les gens pour montrer, moi, j'appartiens à Christ, je veux le suivre. Et Pierre leur rappelle dans cette lettre que leur vie passée et leur engagement, ils l'ont pris en délaissant le monde pour suivre Dieu. Il y a beaucoup de découvertes qui témoignent qu'il y avait beaucoup de pratiques pécheresses des païens à cette époque-là. Il y avait des beuveries, il y avait des orgies qu'on organisait en l'honneur des divinités païennes. Mais là, les chrétiens ne voulaient plus participer à cette débauche-là. On peut-tu les comprendre? Nous aussi, on veut se dissocier de ces choses-là. On ne veut plus marcher comme ça. Mais à cause de ça, les païens les considéraient comme des antisociales. Voyons, tu ne veux pas venir à mon orgie. Tu es donc bien antisocial. Donc, on était considérés comme des antisociales, des gens qui n'aimaient pas le monde. Néron, il disait des chrétiens qu'ils étaient des ennemis de l'humanité. Tu sais, on ne veut plus être dans le monde. On n'est pas des ennemis, mais on ne veut plus, mais on a de l'air d'être du monde qui on veut être ennemis de l'humanité. Tacite, qui est un auteur aussi du 1er siècle, il dit « Les chrétiens ont une haine de la race humaine. » Ça, c'est l'image qu'il y avait parce qu'on ne veut pas faire comme le monde. Mais les chrétiens n'avaient pas une haine de la race humaine, ils avaient une haine pour le péché. Puis ils se faisaient persécuter à cause de ça. Et selon des sources, on sait que certains se décourageaient. Parce que là, tu dis, moi, je veux suivre Christ, je veux abandonner tout ça, mais là, je me fais persécuter, je me fais calomnier. C'est ça ma récompense. Et certains abandonnaient la foi, disaient, non, moi, je n'ai pas signé pour ça. Puis encore aujourd'hui, on voit des chrétiens abandonner la foi à cause des épreuves, à cause de toutes sortes d'épreuves que les gens vont vivre, puis vont dire, non, 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 si Dieu était vraiment là, il n'aurait pas fait ça dans ma vie. L'épreuve va soit casser votre foi ou elle va la rendre plus forte. Puis moi, je prie qu'elle ne casse jamais ma foi, mais qu'elle la rende toujours plus forte. C'est dans ces moments-là qu'il est important de se rappeler pourquoi j'ai décidé de suivre Jésus. Pourquoi vous avez décidé de suivre le Seigneur? Pourquoi je me suis engagé à être son disciple? Est-ce que c'était pour avoir une meilleure vie? Pour qu'il me bénisse sur la terre? Bien, dans un certain sens, oui, parce que quand le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais je vais vous donner du repos », ben oui, on avait une espérance d'avoir un repos, d'aller à Christ, d'avoir une bénédiction, d'avoir un fardeau qui s'enlève, d'avoir moins de tracas, d'avoir toutes sortes moins de choses, mais on n'est quand même pas venu au Seigneur pour que tous nos problèmes soient réglés. Parce que si on est venu au Seigneur pour que tous nos problèmes soient réglés, puis que la vie soit belle, puis que financièrement ça marche bien, puis que finalement la santé ça allait toujours bien, bien dès qu'une tribulation va venir, bien je vais m'en remettre à douter de ma foi, à me dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on a décidé de suivre Christ. Pourquoi? Parce qu'il est notre seul espoir. Il est notre seul espoir sur terre ici, même si ça ne va pas toujours bien, puis pour l'éternité. Puis quand on est dans le pire du pire du pire, Jésus est encore notre seul espoir. Mettez-vous dans le pire du pire du pire, puis enlevez Jésus, ça va être quoi votre espoir que vous allez chercher, que vous allez vous accrocher? Il n'y a rien d'autre. À quoi qu'on s'accroche? Pierre, il dit, Seigneur, à qui tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie. Puis des fois, je pense à ça, enlève Christ de ma vie, qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur qui? Je m'appuie sur moi. Je n'ai pas le goût de suivre grand gourou et grand philosophe de ce monde. je vais m'appuyer sur moi, puis mon petit être intérieur. C'est ça beaucoup que les gens font. Ils font à leur manière, à leur manière. Mais non, j'ai décidé de suivre Christ, puis je vais le suivre même dans les mauvais moments. Toby Mac, qui est un chanteur plus chrétien, mais plus peut-être rock, je ne sais pas trop c'est quoi leur style, son style. Vous connaissez Toby Mac? Il était dans, je ne sais pas si vous connaissez tout, mais il a perdu son fils à l'âge de 21 ans. Et moi, je viens d'avoir, ma fille, elle a eu 22 ans cet été, puis je ne peux pas imaginer perdre un enfant à cet âge-là. Pourtant, Dieu permet ça dans la vie de Toby Mac. Puis j'ai bien aimé ce qu'il dit. Il dit, « Ma femme et moi voudrions que le monde sache ceci. Nous ne suivons pas Dieu parce que nous avons une sorte d'entente sur la table avec lui. » Du genre, « Nous te suivrons si tu nous bénis. Nous suivons Dieu parce que nous l'aimons. » C'est un honneur de le suivre. Il est le Dieu des collines et des vallées. Il est magnifique par-dessus tout. Puis j'ai bien aimé ce qu'il a rapporté aux médias, devant les gens, parce que les gens se disent, hey, tu chantes pour Dieu, puis tu viens de perdre ton enfant de 21 ans. Pas grave. Je ne vais pas renier Dieu ou me détourner de Dieu pour autant. Alors, dans les moments difficiles, rappelons-nous de cet engagement-là. Pourquoi j'ai voulu suivre Christ? Troisième chose à se rappeler, la fin est proche. Il parle de ça au verset 2, il dit, selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre. Et au verset 7, la fin de toute chose est proche. Probablement que Pierre fait référence à la seconde venue de Jésus dans ces versets-là. Et je ne sais pas pour vous quand vous lisez ça, mais pour moi, ça crée deux émotions. La première, c'est le soulagement. C'est comme, oh. Je ne sais pas si c'est arrivé des fois des moments où est-ce que vous avez hâte d'être enfin avec le Seigneur. Pas qu'on n'aime pas notre vie, ou notre épouse, ou nos enfants, ou notre travail, ou notre ministère. Mais quand on est engagé pour Christ, on se rend compte que c'est un combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis des fois, on a juste la langue à terre, puis on a hâte que le combat soit fini, puis qu'on soit avec le Seigneur, libéré, enfin. Alors, j'ai un soulagement quand je lis ces versets-là. Mais j'ai un autre sentiment, une autre émotion d'urgence aussi. Combien de temps encore il me reste? Puis je me souviens d'un temps de prière que j'avais eu, puis ça m'avait vraiment resté collé à l'esprit. Ça me disait, combien de temps qu'il me reste pour vivre pour toi, Seigneur? Puis des fois, j'y pense, puis je me dis, j'aimerais ça retourner en arrière, puis donner ma vie à 12 ans au Seigneur, ou à 6 ans, ou à l'âge que je suis capable de comprendre, puis commencer à prêcher tout de suite l'Évangile. J'ai l'impression que j'ai perdu tellement de temps, puis je réalise de plus en plus l'urgence de vivre d'une manière absolue pour le Seigneur Jésus, puis en même temps qu'on a de la difficulté à le faire. Vous savez, c'est seulement ici sur terre qu'on peut se battre pour le Seigneur. Pensez à ça. Pendant qu'on est ici, là, on peut choisir Christ et renoncer au péché. On peut montrer, « Hey Seigneur, je t'aime, je vais te montrer, puis je sais qu'on l'échappe tout souvent, puis on n'est pas à la hauteur, mais je vais te montrer à quel point je t'aime, je vais faire ça, puis ça. » Quand on va être au ciel, il n'y aura plus ce choix-là entre servir Christ et renoncer au mal. On va être tout avec lui, parfait. C'est juste ici qu'on a ce privilège-là de se battre pour le Seigneur. Alors, profitons de ce moment-là, puis battons-nous pour Christ. Montrons-lui qu'il compte pour nous, qu'il y a une valeur pour nous inestimable. Quatrième chose à se rappeler, bien, Dieu est juste. On voit ça dans les versets 5-6. Il y a quelques versets un peu difficiles, je vais essayer d'expliquer. Mais la souffrance peut être le résultat de choix, mais la souffrance peut être aussi aléatoire. On peut vivre des épreuves qu'on n'a pas choisies. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi moi? Et je sais que je vais bientôt peut-être me poser cette question-là. Je dis ça parce que, bon, on vieillit, j'ai 5 enfants. Dans les prochaines 10 ans, ça se peut qu'on vive quelque chose qu'on ne veut pas vivre, puis que je dise, pourquoi moi, Seigneur? Et à ce moment-là, des fois, on se pose la question sur la justice. Hey, je te sers depuis tant d'années. Pourquoi moi? Mais Dieu est juste. Dieu est juste, puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pour les chrétiens de notre lettre, ce n'était pas juste qu'ils vivaient. Ils étaient persécutés. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi. En fait, ils ont choisi Christ. Ils savaient que la persécution venait avec Christ. Fait qu'on pourrait dire qu'ils l'ont choisi, mais comprenez, ce n'est pas par leur faute. Et Pierre leur rappelle que leurs ennemis vont rendre compte. Dieu est juste. Vos ennemis qui vous persécutent vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et là, il ajoute ce verset difficile, car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugé selon les hommes, moi je prends le mot selon parce qu'il m'aide à comprendre plus. Puis je pense vraiment que c'est le sens du mot grec qui est le même plus bas. Avoir été jugés comme selon les hommes. Quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Donc, est-ce que l'Évangile a vraiment été annoncé aux morts? Là, je sais qu'il y a d'autres versets ailleurs. Je ne vais pas faire une étude très profonde. Je veux juste vous donner quelques idées sur qu'est-ce que je pense ici. C'est sûr que ce verset-là ouvre la porte à la doctrine de l'universalisme, hein, l'idée que, ben, vois-tu, Dieu, il est allé prêcher aux morts, puis ils ont pu se convertir, et tout le monde va être sauvé. C'est un des versets que les gens qui croient à cette doctrine-là vont utiliser, mais je ne crois pas du tout que ce verset-là, c'est ce qu'il veut dire. Je vais vous lire comment je pense, qu'est-ce qu'il veut dire. Je l'ai écrit comme ça. Car l'Évangile a été aussi annoncé à ceux qui sont maintenant morts. Donc, je ne pense pas qu'il est en train de dire que Dieu est allé annoncer l'Évangile aux morts. Je pense que Dieu dit, ce que Pierre dit, c'est que Dieu a annoncé l'Évangile qui a été annoncé aux morts, à ceux qui sont maintenant morts. Ils l'ont entendu, l'Évangile, maintenant ils sont morts. Ben, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, parce qu'il y en a qui ont été tués par les hommes, ils ont été méprisés, persécutés, pendant qu'ils étaient dans leur corps, ils ont été jugés selon les hommes, ils soient maintenant amenés en esprit dans la vie éternelle avec Dieu. Alors moi, c'est ce que je pense que Pierre, ici, il dit. Je pense qu'il veut les rassurer en fait que Dieu est un juste juge et que ces croyants qui sont morts n'ont pas cru en vain. Et que ceux qui les ont tués, les méchants qui sont encore là, vont un jour payer parce que Dieu va les juger. Ensuite, la cinquième chose à se rappeler, c'est de l'importance de la prière. Je sais que ça fait plusieurs points, je vais tout vous les résumer dans quelques minutes. L'importance de la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Est-ce que vous trouvez intéressant que c'est Pierre qui dit ça ici? Parce que Pierre, il est tombé endormi à Gethsémané. Il n'a pas veillé. Puis là, Jésus revient. Vous dormez encore? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Puis là, Pierre, ben, il a appris de ses erreurs. Il a appris. Puis là, il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La vie chrétienne, elle va être plus difficile pour chacun de nous si on ne fait pas de la prière une priorité. Puis on est tous d'accord ici que la prière, c'est super important. Mais on est aussi tous d'accord pour dire que on arrache probablement tous avec la prière. Et puis, je veux pas qu'on se sente coupable ce matin parce qu'on ne prie pas assez, mais il faut réaliser que c'est vraiment la prière qui est le moteur beaucoup de nos vies chrétiennes. On se nourrit des Écritures, puis on prie, on intercède. Jésus, il priait la nuit, il se levait, puis il faisait noir encore, puis il allait prier la nuit. Ouais, mais c'était Dieu fait homme. Il n'était pas juste connecté 24 heures sur 24 sans avoir à aller s'installer, à prier. Il faisait ça, il priait constamment. Puis nous, on se donne le privilège de dire que c'est super important, mais sans jamais être capable vraiment de se discipliner à dire, gars, je vais en faire une priorité dans ma vie. C'est un cheval de bataille sur lequel je frappe tout le temps dans ma vie, puis tu sais, même à l'église, la prière est importante. Prier les uns pour les autres. On aurait peut-être moins de monde qui tombe partout, puis on aurait peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas en train de. Je ne sais pas, mais il faut prier. Le combat est difficile. Hey, je vous lis quelques citations que j'aime. C'est pas dans la Bible, mais c'est des hommes de Dieu. Il y a un prêtre anglican, Charles von Vangel, il dit, « Si je veux humilier quelqu'un, j'ai juste à le questionner sur sa vie de prière. » Michael Reeves, il dit, « Si notre tendance est de penser que vous êtes plus... Non. Si votre tendance est de penser que vous êtes plutôt merveilleux, rappelez-vous simplement votre vie de prière. » Sur l'idée qu'on n'est peut-être pas des gens très engagés dans la prière. H.B. Charles, qui est un prédicateur que j'aime beaucoup, il dit « La prière est une question de discipline et de sacrifice et non une question de convenance. » Et il dit aussi « Vos prières ne signifient rien pour Dieu tant qu'elles ne signifient pas tout pour vous. » Puis j'ai vraiment accroché sur cette dernière-là. Ça ne signifie rien pour Dieu tant qu'elle ne signifie pas tout pour moi, la prière. Alors, je résume avant de passer à mon dernier point. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler quand on est dans les moments intenses de souffrance? Bien, le Seigneur nous a précédés dans la souffrance. Il est passé par là, puis même pire. Notre engagement pour le suivre, rappelons-nous de ça, du jour où on dit « Je veux te suivre, Seigneur. » Pourquoi je voulais suivre le Seigneur Jésus? Rappelons-nous, troisièmement, que la fin est proche. Un jour, on va le voir revenir, bien, peut-être pas de notre vivant, mais on va être bientôt dans sa présence. 50 ans, c'est vite passé. Quatrièmement, Dieu est juste. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui nous permet dans nos vies, Dieu, il est juste. Cinquièmement, l'importance de la prière. Et sixièmement, je suis un membre d'un corps. Puis ça, on a tendance à l'oublier quand ça va mal. Et moi, il y a des croyants dans l'Assemblée qu'on ne voit pas des fois depuis, je ne sais pas, ça fait 3-4 semaines qu'on ne voit pas, puis quand on les revoit, on leur parle, ils disent « Ah, ils me disent, c'est parce que ça n'allait vraiment pas. » Bien, c'était justement le temps de venir encore plus à l'Église, si ça n'allait vraiment pas. Notre réflexe est isolé quand ça va mal. Mais on est un corps, puis on a de la misère avec ça. Je vous le dis, il y a des gens qui préfèrent aller dans les églises où ils passent incognito, parce que nous, dans notre église, on est plus une église avec un membership, puis on a les gens, on sait c'est qui sont membres, puis on prend soin les uns des autres, puis ça, on ne vous voit pas pendant 2-3 semaines, mais c'est sûr qu'on va peut-être vous appeler, on va aller voir comment ça va, mais il y en a qui n'aiment pas ça, ils veulent être incognito. Alors, ils vont dans les églises qui passent incognito, parce qu'il y a des églises comme ça, puis je ne veux pas parler contre ces églises-là du tout, mais on est un corps. Il faut comprendre ça. On est une famille ensemble. On prend soin les uns des autres. Il ne faut pas avoir la tendance de s'isoler quand ça va mal. Je comprends qu'on ne va pas étaler nos problèmes à tout le monde, mais il ne faut pas avoir cette tendance de s'isoler. Il faut être là avec le corps, puis aller chercher de l'aide qu'on a besoin, puis s'entourer les uns les autres. Puis pas se juger. Peut-être qu'il y a un jugement des fois qui fait que certains se reculent. Oui, on va juger le péché qui est non confessé, que les gens ne veulent pas abandonner. Mais quelqu'un qui veut abandonner et qui ne veut pas vivre dans le péché, on va l'accueillir avec amour, on va l'épauler, on va prier avec lui. Un corps fonctionne à son meilleur seulement quand tous les membres sont actifs ensemble. Et on doit être actif dans l'amour. L'amour, ça c'est dur parce que, tu sais, moi je suis une main puis je sens que je m'entends bien avec l'autre main, puis tu sais, ça va bien, tu sais. Je n'ai pas le goût nécessairement de m'entendre bien avec le pied parce qu'il me semble que je ne sais pas, tu sais, dans le corps, on ne s'entend peut-être pas nécessairement avec tout le monde. On a tendance à aller avec ceux qui sont comme nous un peu. Mais ce n'est pas ça un corps. On doit être tous ensemble, avoir cet amour les uns pour les autres, même si on a des affinités plus profondes avec d'autres. C'est l'amour aussi qui nous motive à pardonner les fautes des autres. Ça c'est un autre gros sujet, le pardon dans l'Église. Parce qu'on est là, c'est là qu'on va être blessé le plus. On est une famille ensemble, puis on se voit 3 fois par semaine ou 2. C'est sûr que c'est là qu'on va être blessé le plus. Il faut faut qu'il y ait la place pour le pardon. Thomas Schreiner dit « L'amour couvre les torts des autres, tandis que ceux qui sont pleins de haine utilisent les péchés des autres comme un tremplin pour les attaquer. » Alors imaginez si, en plus de la persécution, ceux qui ont reçu la lettre de Pierre sont persécutés. Imaginez si, en plus, ils ont des conflits dans l'Église qui ne sont pas réglés. C'est sûr que ça va mal en ce temps-là. Donc, on doit être actif dans notre amour, puis avec nos dons aussi. Nos dons sont pour le corps de Christ. Ce n'est pas pour nous. C'est pour le corps de Christ. Et Pierre, dans les versets qu'on a lus, nous parle des deux grandes catégories de dons, les dons de la parole puis les dons de service. Alors, si quelqu'un n'exerce pas son don, il prive tous les autres de ce don-là. Et j'imagine que ça l'attriste le Seigneur quand le corps est inactif ou un membre du corps est inactif. Puis je me rappelle d'une histoire que j'ai lue dans un livre. C'est un vétéran qui était paralysé dans une chaise roulante. Il va au parc avec sa femme. Et puis son fils tombe. Il part à pleurer. Puis lui, son premier réflexe, mais lui, il est limité, il est dans son fauteuil. Il avait tout le corps paralysé. Son premier désir, c'était de courir à chercher son enfant pour le consoler. Ben, sa femme, c'est ce qu'elle a fait tout de suite, mais qui avait le goût de faire ça, de courir. Puis, il n'a pas pu s'empêcher juste de pleurer devant la scène parce qu'il était juste là, incapable de rien faire. Un cœur de père piégé à l'intérieur d'un corps qui ne répond pas. Puis l'auteur qui écrivait cette histoire, il se demandait ensuite, qu'est-ce que Dieu ressent quand il voit tant de besoins sur la terre, tant de besoins dans l'Église, et que ses enfants à qui il demande d'intervenir ne répondent pas? Est-ce que ça l'attriste le Seigneur, un corps qui ne répond pas? Je pense que la réponse est oui à cette question-là. Alors, le Seigneur a passé par là. Rappelons-nous notre engagement. La fin est proche. Dieu est juste. L'importance de prier, d'avoir une vie de prière, puis de se rappeler qu'on fait partie d'un corps. On est un membre qui fait partie d'un corps. Et la conclusion, bien, le but final, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Toujours la gloire de Dieu. Puis toujours se rappeler la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'on a à vivre, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, le but final, ce n'est pas mon bien-être, c'est pas ma guérison, c'est pas ma délivrance. Puis même si Dieu m'accorde tout ça éventuellement, une guérison, une délivrance, c'est pas ça le but final. Le but final, c'est toujours la gloire de Dieu. Alors, ça nous aide à enlever nos yeux de nous-mêmes puis de les relever au Seigneur, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole encore qui vient nous faire du bien. Et Seigneur, on le sait que ça s'en vient, la souffrance de différentes manières dans nos vies. On est peut-être dans une époque où tu nous as épargnés, où tu as pas permis des choses, mais on le sait qu'éventuellement, Seigneur, c'est comme ça que tu travailles dans nos vies. Donc, on veut s'attendre à ça. On veut s'armer de cette pensée-là. Mais on veut aussi se rappeler de toutes ces vérités-là, ces points qu'on a discutés ensemble ce matin. Et nous rappeler qu'au final, c'est ta gloire à toi et pas notre bien-être ou notre délivrance à nous, mais c'est ta gloire. Et qu'on puisse être des hommes, des femmes, tout le temps tournés vers ce but ultime de ta gloire. Et je prie pour l'Assemblée de Sainte-Marie, que tu puisses spécialement leur faire du bien, les bénir. Je veux prier aussi pour leur activité d'évangélisation avec François qui va venir faire une présentation de l'Évangile. Je prie que cette journée soit à ta gloire, que des gens puissent entendre le beau message de l'Évangile, se tourner vers toi. Et merci encore pour mes frères et sœurs ici, bénis chacun leur famille. selon leurs besoins aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.